Vous écoutez France Culture.
Prenez place, chères auditrices, chers auditeurs, autour de la grande table d'été qui vous propose aujourd'hui de troquer fourchette et couteau pour une épée. Avec une première partie dédiée au Moyen-Âge et à son imaginaire, à l'heure où les fêtes médiévales estivales se multiplient dans notre pays, et alors que ceux qui sont privés de vacances voyagent par procuration jusqu'à cet âge réputé obscur en dévorant des brochettes sanguinolentes d'épisodes de la série télévisée Game of Thrones. Puis, après avoir partagé la chronique d'Eau de la Vigne, à première vue, nous vous offrirons rien moins que du nectar et de l'ambroisie en compagnie de l'immortel Marc Lambron, membre de l'Académie française, nouvellement élu, dont l'épée d'apparat est chez le forgeron. Enfin, Marine Loyen nous rejoindra pour sa chronique à la rencontre des arts et traditions populaires telles qu'on les accommode cet été dans notre fière contrée. Mais à présent, festoyons, gentes dames et fiers chevaliers des ondes, autour de la grande table oblongue du studio numéro 1 de France Culture, à la découverte de l'imaginaire médiéval et de ses réécritures, en compagnie de la spécialiste du merveilleux médiéval à la mode d'aujourd'hui, Anne Besson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Anne Besson, maître de conférences en littérature générale et comparée à l'Université d'Artois, cofondatrice de l'association Modernité médiévale et notamment auteure de La Fantaisie, un ouvrage publié aux éditions Klingsic. Anne Besson, pendant l'été, je le disais, les fêtes médiévales, souvent teintées de fantaisie, autrement dit de merveilleux, se multiplient en France, au Puy du Fou bien sûr, mais aussi par exemple du 8 au 17 août prochain avec le festival Itinérance médiévale en Vallée du Dropt, en Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, le tout avec force musique, combat, fauconnerie, chevalerie et autres jongleries. Mais alors, que doit-on y voir ? D'abord, une extension du domaine du ludique, pour reprendre le titre de l'un de vos articles ?
Alors d'abord, ça relève de politiques de développement local, de développement touristique. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles sont toujours plus nombreuses chaque été, à l'instar des différents festivals. Elles sont d'ailleurs nées à peu près à la même période. À partir de la fin des années 70 et puis surtout au début des années 80 avec les politiques de délocalisation et des incitations au développement culturel. Donc ces fêtes, c'est vrai qu'elles évoluent depuis cette période-là. Elles peuvent avoir lieu à peu près partout, puisque en France et même en Europe, le patrimoine architectural qu'il va s'agir de mettre en valeur est extrêmement riche. Partout en France, on a des châteaux, des remparts, des centres-villes médiévaux. Et on va y trouver toujours à peu près le même mélange d'animations festives dont vous avez parlé, qui sont d'ailleurs fournies par des compagnies prestataires, toujours un peu les mêmes, mais toujours plus nombreuses. Et on y rencontre, c'est vrai, de plus en plus la diffusion d'un imaginaire de fantaisie. Donc la fantaisie, c'est un genre médiatique qui s'est développé dans le prolongement de l'œuvre de Tolkien.
Alors définissez-le précisément, parce qu'on imagine des elfes, des ogres et des gobelins.
C'est ce qu'on va voir dans les défilés costumés des fêtes médiévales, justement, de plus en plus. Le choix des costumes est très clair de ce point de vue. Le choix des costumes ou encore les stands dans les différents marchés artisanaux qui accompagnent toujours ces fêtes. On va avoir des théories de sorcières, druidesses, un mélange de néopaganisme, New Age, médecine naturelle, spiritualité. Et puis quand il s'agit de représenter les méchants, aussi, alors là, très clairement, un renfort d'images directement sorties des productions audiovisuelles des orques et des gobelins qui viennent des films de Peter Jackson, par exemple.
Donc avec la peau verte et gluante, les oreilles pointues et des crocs acérés.
Oh, plutôt noir, vêtu de peau de bête, le Dark Lord.
Et ça marche financièrement, puisque vous parlez de la multiplication à des fins de développement territorial, mais donc aussi de développement économique. Il y a une manne médiévale ?
Manifestement. Il y a aussi un effet de lien social, puisque ce sont des manifestations qui peuvent être relativement pauvres. C'est-à-dire vraiment prendre place dans de toutes petites localités en France, mais qui vont avoir un effet de lien communautaire par toute la préparation qu'elles impliquent, et puis procurer un spectacle qui est vraiment familial, bon enfant, très grand public, qui touche absolument tout le monde dans les touristes potentiels qui passeraient par là à ce moment-là.
Ces fêtes ont même touché Marine Noyen, qui est notre preuse chroniqueuse, mais aussi reporter, attirée par l'odeur qui sait des pièces d'argent, mais aussi du fer. Elle est allée loin du château fort de Radio France jusqu'à Mâcon, au pays des Burgondes, à la rencontre d'une belle et farouche écuyère prénommée Esclarmonde.
Allez !
En fait, c'est deux chevaux qui s'élancent dans une lice, ce qu'on appelle une lice de joute. Et donc le but des cavaliers, c'est de toucher l'adversaire. Autrefois, c'était de faire tomber l'adversaire. Aujourd'hui, c'est simplement de toucher ce qu'on appelle la targe. C'est une sorte de bouclier fixé sur le côté gauche du cavalier.
À combien tu m'as eu dans la targe ?
Je me disais aussi que t'avais un
Je sais pas, j'ai pas vu.
J'ai vachement senti la première.
Moi, je crois que la première, je l'ai eu dans ton bras, en fait.
Non, t'as tapé plein de targe.
Il me semblait que tu étais pas là.
Plein de tarte, peut-être qu'après t'as tapé avec le souquet dans le bras.
Je sais pas, mais tu sais, ça va tellement vite avec la vision, t'as pas le temps de repérer ce que tu tapes.
Nous, on part du principe, comme on propose de la joute médiévale, qu'une joute médiévale, on la propose de manière à être le plus historique possible. C'est des écrits, des livres sur le Moyen-Âge, sur Internet aussi, beaucoup se documenter. Et puis beaucoup d'amis qui m'aident à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça aide d'être entouré de gens qui sont calés dans le domaine. Quand on voit un spectacle de chevalier, on a toujours ce petit frisson de gosse, en fait. Il y a une idée de transmise, il y a des valeurs, et ça c'est important, je pense. Et le courage, je pense qu'il y a pas mal d'honneur, de parole, surtout, la parole donnée qui est très importante. La violence, elle n'est pas gratuite.
Anne Besson, qu'entendez-vous dans ce témoignage d'Esclarmonde ?
Alors j'entends la recherche d'authenticité historique qui peut sembler un peu décalée par rapport aux fêtes médiévales dont on a parlé, qui étaient plutôt folkloriques et dont l'historicité était très secondaire et puis franchement approximative. Mais à partir de ces fêtes donc, qui datent maintenant de 40 ans, on a eu... Au milieu des années 90, en France, parce que ça date de plus loin ailleurs, le développement de ce qu'on appelle la reconstitution historique, et dont cette jeune femme me semble être une représentante, enfin elle veut s'y rattacher, qui donc justement est partie du côté d'une recherche d'authenticité beaucoup plus grande. Alors ils recherchent vraiment la reproduction la plus fidèle, la reproduction matérielle d'un certain nombre d'artefacts, et d'abord de techniques militaires, donc des façons de faire, et de faire la guerre avant tout.
Alors précisément,
qui les ont attirés.
Précisément, Anne Besson, dans ses fêtes médiévales, Esclarmonde, là, au micro de Marine Noyen, en témoigne. Elle parle d'une violence qui n'est pas gratuite, dit-elle. Elle se produit une lance à la main, elle fait des joutes. On propose au public ailleurs de s'aguerrir lui-même dans des ateliers machines de guerre, des camps d'entraînement pour jeunes chevaliers, par exemple au château de Tiffauges en Vendée. On joue à la guerre de Cent Ans, peut-être même aux croisades. Quelle représentation, quel fantasme, peut-être erroné, de la guerre médiévale sont véhiculés ?
Alors on est vraiment ici entre la recherche d'authenticité qui caractérise la reconstitution et puis une pratique beaucoup plus ludique qui est celle de ce qu'on appelle le jeu de rôle grandeur nature. Donc pareil, milieu des années 90, mais à l'autre extrémité du spectre, vraiment dans l'extension du domaine du ludique, des jeunes gens qui ont décidé de vivre des scénarios de jeu de rôle toujours inspiré de Tolkien et de sa fantaisie néo-médiévale, et qui, du coup, vont avoir des épées en mousse, au lieu d'avoir des superbes armures amoureusement
masse d'armes en métal
forgées. Les petits chevaliers dont vous parliez, c'est vraiment ça. C'est pour les enfants qui aiment se battre, dont les produits dérivés
sourire,
médiévaux...
Ça équivoque quand même aujourd'hui, ça résonne avec les camps d'entraînement de djihadistes, ces camps d'entraînement de chevaliers. Pour vous, non, il n'y a pas une dimension politique, guerrière, véritablement ?
Ah non, au contraire, on est dans le détournement de ce genre de choses, dans l'évasion, dans le pas de côté, très manifestement. On va vers un ailleurs, on va vers un autrefois qui n'est plus accessible. On est précisément dans le contournement, dans le retournement de cette violence réelle.
Marine Noyen, toujours en compagnie d'Esclarmonde, notre écuyère, parle précisément de ses références, de peut-être ce pas de côté un peu mythologique qui la nourrit et qui nourrit aussi son camarade Jean-Luc.
Ça, c'est les écuries de la Laurienne.
Alors, c'est inspiré de quoi?
C'est inspiré de Tolkien. Donc, la Lothlorienne, qui est le pays de Galadriel.
Et Galadriel, c'est qui?
C'est reine des elfes de cette contrée. En elfique, ça veut dire pays des rêves. Donc voilà, c'était tout trouvé. Non, mais il y a toujours des personnages, que ce soit dans le médiéval ou dans le fantastique, qui se ressemblent. Il y a toujours, même dans le fantastique, des chevaliers, il y a toujours des armures, il y a toujours ce côté, ces mêmes valeurs aussi.
Rester dans le purement historique, c'est très bien, mais ça devient très limité. Parce que bon, on a la contrainte de l'histoire, on a la contrainte du matériel par rapport à l'époque à laquelle on désire faire quelque chose. Tandis que quand on commence à taper sur le fantastique, on peut avoir une opposition donc, de genre. Ça peut être très bien un chevalier, par exemple, en côte de maille, qui se bat à l'épée contre un minotaure, par exemple.
On peut imaginer n'importe quel personnage, hein, des Ents, on peut devenir un elfe, un nain. On peut aller même dans la mythologie un peu plus celtique, nordique, des faunes,
des centaures,
voilà, il y a tout un bestiaire. Aragorn dans le Seigneur des Anneaux, ou même des personnages comme un arbre Lent, Silverbarbe, ils sont intéressants, quoi. Dans leur rôle, la façon dont ils sont créés, ils ont un but, ils ont un objectif, ils s'y tiennent, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants.
Alors, à l'instant, Esclarmonde et son ami Jean-Luc nous parlent des créatures qu'on retrouve justement chez Tolkien, cet auteur bien connu du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit. Vous partagez, Anne Besson, avec Esclarmonde, un goût particulier pour la figure de Galadriel?
Alors, on entendait d'abord vraiment chez cette jeune femme et son acolyte ce mélange complètement indiscernable, hein, entre l'histoire, hein, et la fiction. Et le jeu de rôle qui consiste à s'identifier à un personnage qu'on a inventé et qu'on a mythifié, qu'on a investi. Effectivement, moi, si je cherche le personnage qui, en fantasy, me correspond le plus, ce sera Galadriel. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins auxquels il soit possible de s'identifier en fantasy, et notamment dans l'œuvre fondatrice qui est celle de Tolkien.
Alors pourquoi Galadriel? Pourquoi vous identifiez-vous à cette elfe?
C'est un personnage magnifique, hein. C'est le personnage qui maintient un pouvoir ancien et secret et sacré, qui est celui des elfes, qui sont le premier peuple, enfin quasiment, chez Tolkien, et celui qui est investi du plus de noblesse. Et c'est un personnage qui choisit de renoncer au pouvoir, et de disparaître plutôt, elle et les siens, plutôt que de s'exposer à la tentation de la corruption du mal.
Et dans la corruption actuelle, celle du monde capitaliste frénétique qui nous entoure, se sentir comme une elfe, Anne Besson, c'est parce que vous êtes représentante de ce vieux peuple qui est celui des chercheurs, des enseignants-chercheurs de l'université?
Bah, peut-être.
Mais alors, parlons un instant, au-delà des exemples qu'on donnait à l'instant, des réécritures de l'histoire qui sont à l'œuvre dans ces fêtes. Vous êtes professeur de littérature comparée. Si on compare la littérature médiévale historique, les sources premières, et puis toute cette mythologie et cette tradition romanesque de la fantasy, qu'est-ce qu'on réécrit? Qu'est-ce qui se transforme?
On a affaire à un syncrétisme qui est manifeste, hein, et qui est très accentué. Alors la littérature médiévale, déjà, mais pour de toute autre raison anthropologique, ne séparait pas très clairement l'histoire de la légende. Et on en est revenu là, en quelque sorte. Si je prends l'exemple de la légende des chevaliers des remparts à Provins, c'est un spectacle où on suit Thibaut de Champagne et Blanche de Castille. Donc ça, c'est un couple historique, hein, qui a participé à la prospérité de la région au XIIIe siècle. Sauf que pour les besoins de l'action et des cascades, ils se trouvent attaqués par des hordes maléfiques menées par un Dark Lord, donc effectivement un
chevalier noir, un seigneur des ténèbres.
Exactement, et tous ces orques et gobelins qui le suivent. Et la situation, pour se dénouer, demande l'intervention d'un esprit des remparts, alors là, qui est une espèce de créature montée sur échasse qui nous est donnée comme une émanation de la nature locale, hein, du terroir, et qui va remétamorphoser Blanche, hein, qui avait été ensorcelée par le mal, en lui tendant la rose de Provins, qui est le symbole de la ville. Donc là, on a vraiment un mélange entre histoire, fantasy, spiritualité New Age, et puis une espèce d'exaltation des traditions locales, hein, d'une identité de la ville.
Marine Loyen, toujours à la rencontre des amateurs de fantasy et de Moyen-Âge, a décidé pour un peu d'action de l'aider Jean-Luc à enfiler son armure.
Écuyer, si tu veux bien me donner un coup de main.
On peut pas s'habiller tout seul.
Tout ce qui est armure et complément d'armure, on est obligé d'avoir un écuyer avec soi. Moi, je suis tombé dedans à cause des écrits donc relatant la vie de Duguesclin, puisque j'avais un oncle qui avait un bouquin là-dessus. Et au-delà de ça, il y avait aussi Ivanhoé, donc qui repassait à la télé, qui était rediffusé. Et donc voilà, ça m'a donné envie de tomber là-dedans, quoi. Voilà, les duels, l'honneur, enfin toutes les bonnes valeurs aussi qui étaient couvertes par la chevalerie. Et puis surtout, bon, par rapport aux écrits de Duguesclin, c'est quand même un stratège militaire et un homme de voilà, bien trempé.
Ensuite, on met le plastron.
Et là, ça commence à peser. Là. Alors là-dessus, là. Ici. C'est super rigide et ça s'enfile comme un pull, mais un pull qui est tout raide. Ensuite, ça a continué ou ça a évolué vers le jeu de rôle et aussi par tout ce qu'on a vu arriver au cinéma petit à petit. Et il y en a un que j'apprécie particulièrement et que je revois régulièrement, c'est le Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Pour le héros, parce qu'il est quasiment parfait, il est mal né. Il a a priori pas de destin, mais on va dire c'est un cutéreux, hein, faut, on va l'appeler comme ça. Mais il est promis un grand destin parce qu'il a, voilà, on lui dit non, mais toi t'as des valeurs, t'es quelqu'un de bien, tu vaux largement mieux que les autres et tu vas le prouver dans ton histoire.
La mallette à armes,
donc comme c'est des armes de 6e catégorie, les épées, on est obligé de les transporter dans une mallette verrouillée. Donc la grande épée que j'ai au côté, c'est donc une épée à une main et demie, c'est-à-dire qu'en fait on peut la manier aussi bien à une main qu'à deux. L'avantage de la main et demie, c'est qu'on a souvent la deuxième main qui est basée sur le pommeau, ce qui permet d'envoyer des coups rapides et toujours en arabesque, ce qui permet de frapper l'adversaire en taille à plusieurs endroits rapidement. Il y a aussi un incontournable, la série Game of Thrones, notamment toute la famille Stark qui incarne la droiture de la chevalerie, alors que les Lannister sont un peu plus, on va dire, tortueux dans leur façon de faire, mais voilà, on y retrouve les valeurs. Et ben en fait, c'est tous ces personnages où on en pioche un petit peu par-ci, un petit peu par-là, c'est des attitudes et des façons de penser, où on se retrouve dans certains personnages et où on se dit, oui, tiens, ça me correspond chez lui. Et là, sur scène, ben justement, on peut extérioriser tout ce qui est un petit peu enfoui au fond de nous, que ce soit le bon ou le mauvais.
Alors à l'instar de Jean-Luc, on ne peut évoquer l'imaginaire médiéval aujourd'hui sans parler de l'engouement actuel pour la série télévisée Game of Thrones, tirée des romans de George R.R. Martin, série, dit-on, la plus piratée de tous les temps, hein, rien tortueuse comme le dit Jean-Luc. Pour vous, Anne Besson, qui la suivait certainement avec intérêt, pouvez-vous nous dire de quel imaginaire médiéval cette série témoigne-t-elle ?
Alors c'est le dernier avatar en date de la diffusion de l'imaginaire du Moyen-Âge auprès du grand public. Et comme c'est le dernier avatar en date, il est saisi par contraste avec les strates précédentes, et en l'occurrence essentiellement avec le Moyen-Âge de fantasy qu'on avait vu chez Tolkien, qui lui était marqué par le merveilleux, par la noblesse des enjeux, par les quêtes épiques, par les grands héros. Alors, contraste évident avec l'œuvre de George Martin, dont le Westeros est au contraire boueux, sale, ultra violent. Les personnages luttent pour le pouvoir, pour la survie tout simplement, et donc il reste fort peu de place chez eux pour des sentiments plus hauts ou plus nobles. Alors, du coup, par contraste là encore, cette perception du Moyen-Âge, elle va être sentie comme plus historique, plus authentiquement réaliste, ce qui est faux, hein, parce qu'elle est tout aussi stéréotypée et elle est plutôt plus ancienne, en fait, même, cette image-là. C'est celle qui vient du roman historique, hein, donc depuis les Ivanhoé dont nous parlait Jean-Luc tout de suite, et plus précisément des Rois maudits, hein, de notre Maurice Druon, qui ont été revendiqués par
George Martin.
Voilà,
le revendique, comme, voilà,
comme une influence directe. Donc c'est cette vision-là d'un Moyen-Âge brutal qui nous revient à travers Georges Martin.
Mais c'est un Moyen-Âge imaginaire, inventé, vous y insistez, Anne Besson, eu égard à la représentation de ce Moyen-Âge fantaisiste dans la série Game of Thrones. Je me permets de vous interroger sur un point de détail qui excite ma curiosité. Roland Barthes, dans le chapitre de ses mythologies intitulé « Les Romains au cinéma », constatait que dans le Jules César de Mankiewicz, tous les personnages ont une frange de cheveux sur le front. Et notre sémiologue de se demander « Qu'est-ce donc qui est attaché à ces franges obstinées ?» Alors, dans Game of Thrones, ce ne sont pas des franges sur le front, mais des cheveux longs que partagent tous les personnages masculins. Je me permets, Anne Besson, de vous poser à ce sujet la même question. Qu'est-ce donc qui est attaché à ces crinières ?
Ah bah c'est le retour du barbare, hein, très clairement, plus largement du poil, hein, parce qu'on a à la fois donc les chevelures effectivement longues en bataille, jamais cachées sous un couvre-chef, même au milieu des glaces, mais on a aussi des barbes hein, envahissantes sur des trognes souvent burinées, et puis on a des peaux de bête hein, aussi qui reviennent évidemment essentiellement du côté du nord, hein, du Grand Nord. Effectivement, un Moyen-Âge de synthèse, Moyen-Âge imaginé, parce que le renvoi de la série au Moyen-Âge très sombre du XIVe siècle français et européen, hein, la guerre de Cent Ans, la guerre des Roses, se mélange, hein, puisque désormais ça semble inévitable, avec des dragons, des sorciers, des chamans hein, dans cette série.
Il y a un autre personnage qui n'est ni dragon, ni sorcier, ni particulièrement velu, c'est le nain Lannister, héros de cette saga, et en particulier à la télévision. Qu'en est-il en réalité, dans la réalité historique, et en tout cas celle des sources, des textes littéraires que vous étudiez, Anne Besson, de la place des nains dans la société médiévale ?
Alors, dans la littérature médiévale, en tout cas, le nain est très présent dans les romans arthuriens, donc 12e, 13e siècle, et ce sont des personnages négatifs, des personnages maléfiques et sournois, et manifestement, la mauvaise réputation dont pâtit Tyrion Lannister est comme un écho de cette réputation des nains dans la littérature médiévale. Alors, là encore, Martin revient à cette référence source, alors que le nain s'était complètement réinventé chez Tolkien et ses successeurs sous la forme d'un personnage mythologique venu des mythes et légendes nordiques. Donc c'était le nain sous la montagne, le Nibelungen, qui n'avait plus rien à voir avec ce nain réaliste de la littérature médiévale au départ.
Ce siège a été une horreur.
Vous êtes passé par la brèche en premier, Drake ?
En second. Tauros de Myr est passé en premier, brandissant son épée enflammée.
Tauros de Myr ? C'est un fou, cet homme-là. Robert, vous avez adoubé après la bataille ?
Mon plus grand moment de fierté. Un genou dans la poussière, l'épée du roi sur mon épaule. Au son des mots, au nom du guerrier, je te demande d'être brave. Et moi, je ne pensais qu'à ma furieuse envie de pisser. J'étais resté en armure de plate complète pendant 16 heures. Je ne l'ai réalisé que lorsque les combats ont cessé. Je pense avoir été le premier adoubé à pisser sur les bottes du roi.
Robert a dû en rire. C'était un homme de qualité, un grand guerrier. Et un mauvais roi. Ma jeunesse s'est consumée à guerroyer pour de mauvais rois.
Vous aviez prêté serment.
C'est juste. Et un homme d'honneur est fidèle à son serment. Même s'il sert un ivrogne ou un illuminé. Une fois dans ma vie avant qu'elle ne s'achève. Je veux savoir ce que c'est que de servir fièrement, de guerroyer pour quelqu'un en qui l'on croit. Vous croyez en elle ?
De tout mon cœur.
Voici un extrait de la série Game of Thrones dans sa version française. Au-delà des détails que nous évoquions à l'instant, Anne Besson, certes révélateur, qu'est-ce que cette passion occidentale, et singulièrement en France, pour Game of Thrones, cette série télévisée, nous dit de nous, de notre société ? Là, on les entendait parler, ces chevaliers de bravoure, d'idéal politique, de croyance et de lutte contre les mauvais rois. C'est ça qu'on cherche, des valeurs chevaleresques ?
Alors curieusement, la série donne à voir la défaite systématique de ces valeurs-là. Donc elle nous oblige à penser un petit peu ces a priori. La série, elle fait violence hein, aux spectateurs occidentaux confortablement installés dans leur canapé. Elle donne à voir des choses très dures et peut-être justement qu'elle peut se comprendre comme le désir de revenir à des émotions fortes hein, dont on serait désormais privé, de être de nouveau en contact avec une sauvagerie.
Ou avec, être mordu par le froid.
Un substrat, effectivement, qui est quelque chose de commun à notre humanité profonde. Le Moyen-Âge, de manière générale, hein, depuis longtemps, est conçu comme une époque qui correspondrait à une espèce d'enfance du monde. Donc avec ce que ça implique de démons comme de merveilles, hein, de grands drames comme des quadrilles. Et bon, on est vraiment dans une époque qui valorise l'enfance. Donc, dans le retour du Moyen-Âge, il y a effectivement ce retour vers une époque sentie comme fondatrice et fondamentale, hein, qui n'est pas non plus forcément une simplification, parce qu'à côté de ces clichés, le Moyen-Âge dont on hérite aujourd'hui est finalement quelque chose d'assez riche hein, et diversifié. Je pense qu'on a commencé à le montrer. Pour moi, le renouveau du médiévalisme contemporain, il doit se comprendre par notre désir, hein, toujours et encore, de grandes histoires, d'autres mondes. On a à la fois le retour du merveilleux contemporain, mais on a aussi la multiplication des mondes de jeux, par exemple des jeux en ligne, hein, des jeux de rôle grandeur nature. Hein. Et le tout doit être relié à la place toujours plus importante prise par Internet dans nos sociétés. On a le désir hein, et on a de plus en plus la possibilité d'habiter d'autres mondes. Et le Moyen-Âge est un de ces mondes possibles. Dans un contexte de crise perpétuelle, et puis dans la mesure où on nous donne cette situation comme complètement inévitable, inéluctable, on n'y peut rien, les décisions sont prises ailleurs, on change de gouvernement mais rien ne change, etc. C'est d'autant plus important, hein, c'est presque vital d'avoir ces possibilités d'explorer d'autres possibles identitaires hein, qui sont à la fois historiques et fictionnels, hein, et assez inextricablement les deux.
Mais alors dans cette revisitation de notre temps à travers les récits et l'imaginaire contemporain autour du Moyen-Âge, il y a non seulement toute... Il y a également, Anne Besson, un retour de la figure féminine. Il y a des héroïnes comme on ne les trouvait plus, on ne les trouvait pas, en tout cas dans le roman historique du 19e siècle que nous évoquions tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces personnages féminins, pour rester encore un instant sur la série Game of Thrones? Est-ce qu'ils correspondent à une lecture très trop contemporaine de la place des femmes dans nos sociétés?
Alors, à l'évidence, ça n'est pas une volonté, là pour le coup, de revenir, de réfléchir à la place de la femme au Moyen-Âge. C'est une lecture complètement contemporaine des rapports entre les sexes, plutôt entre les genres hein, d'ailleurs, puisque c'est vraiment dans le gender qu'on constitue. Mais c'est absolument normal, hein, chaque relecture du Moyen-Âge à chaque époque correspond à la vision de l'époque qui l'a produit. On projette nos besoins politiques, idéologiques, religieux, etc. sur l'époque qu'on considère. Là encore, la série Game of Thrones nous présente un éventail de possibles dans les rôles féminins qui a l'avantage d'être extrêmement étendu, hein, vraiment un spectre. Parce qu'on peut aussi bien entendre des discours qui reprochent à la série son érotisme torride et donc son antiféminisme dans un certain nombre de scènes, en particulier une scène de viol qui a fait scandale auprès des spectatrices américaines. Et au contraire, on va avoir un certain nombre de personnages comme Brienne de Tors, hein, la chevalière, qui sont valorisés, hein, montés en épingle par les nouveaux mouvements féministes. Donc il y a absolument de tout, hein, on peut trouver tout ce qu'on veut dans cette série.
Are you the emissaries from King Horik? Well, I can tell you at once, you're wasting your time. It's my land and I want it returned to me. That's all I have to say.
He wants to make peace with you and come to some kind of agreement.
Then tell him if he leaves my land, we can have peace. But not before.
Yes!
autre série à caractère médiéval, la série Vikings, qui est une production à la fois canadienne et irlandaise, mais on l'entendait en anglais. Game of Thrones est une série et une saga à la fois américaine. C'est assez étrange, ce goût des Américains, Anne Besson, pour le Moyen-Âge. Ils n'ont pas connu le Moyen-Âge européen comme nous. Est-ce qu'il y a un imaginaire médiéval américain spécifique ?
Alors plus vraiment dans notre période de mondialisation culturelle, puisqu'ils ont commencé par nous prendre le Moyen-Âge.
Ils nous ont pris Tolkien et Maurice Druon.
Mais ça fait un bon moment qu'ils nous le renvoient, hein, depuis les années 30 au moins, avec Prince Vaillant, qui est une série fondatrice d'Harold Foster, qui a mis en place beaucoup des images qu'on a du Moyen-Âge, et puis les grands films hollywoodiens avec Errol Flynn, etc. Enfin, l'image du Moyen-Âge, notre image du Moyen-Âge, elle est beaucoup un produit de la culture populaire américaine. Alors maintenant, c'est vrai, ils n'ont pas de Moyen-Âge, ils n'ont pas de patrimoine. Du coup, leur vision du Moyen-Âge est plus manifestement secondaire. Elle est évidemment mythique. Pour eux, le Moyen-Âge est un ailleurs, littéralement. Alors que nous, on peut croire qu'il s'agit d'un autrefois, ce qui n'est pas vrai non plus. Mais ça produit comme une espèce d'appel d'air, un investissement d'autant plus passionné de la part des Américains et des Canadiens. Par exemple, au Québec, la passion pour le Moyen-Âge est extrêmement développée. Il y a des chaînes entières de magasins qui vendent des costumes et des artefacts médiévaux. Il y a le duché de Bicoline, qui est un grand espace voué aux pratiques de reconstitution et de grandeur nature. Donc, ils sont d'autant plus attachés à ce Moyen-Âge qu'ils ne l'ont pas connu.
Et aujourd'hui, par chez nous, de notre côté de l'Atlantique, en France singulièrement, Anne Besson, est-ce qu'il y a quelque chose de singulier dans l'écriture de romans médiévaux, de romans historiques, dans l'écriture de la fantaisie à la française, ou est-ce qu'on doit tout désormais à l'imaginaire américain ?
Alors longtemps, on a récupéré seulement les produits de la culture américaine. Pour la littérature de fantasy, c'était très frappant. Le développement de la fantasy française est vraiment récent. En revanche, ça fait une petite dizaine d'années que la fantasy française s'impose dans ses propres valeurs, avec ses propres réussites. Elle a enfin réussi à absorber les codes du genre, parce que ça c'est absolument nécessaire, on ne peut pas prendre ses distances comme ça avec l'héritage, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la reprise du même, mais avec une tradition feuilletonesque, des choses qui renvoient à Dumas par exemple, qui nous sont particuliers.
À 13h, passé de 17 minutes sur France Culture, c'est l'heure à présent de retrouver la chronique d'Eau de la Vigne à première vue, qui s'entretient aujourd'hui, non pas avec quelque auteur de fantasy, mais avec l'artiste plasticien Xavier Veillant.
Xavier Veillant est un plasticien français, figure majeure. De l'art international, il crée des œuvres simples, qui vont à l'essentiel tout en développant des expériences portées par les progrès technique. Xavier Veillant répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? Et à première vue, Xavier Veillant, vous nous répondez.
Alors, ce qui a été un peu fondateur pour moi, c'était sans doute des expositions que j'ai pu voir quand j'étais enfant, avec mes parents qui n'étaient pas portés sur l'art. Mais certaines expositions, comme j'ai un souvenir d'une exposition de Vasarely, qui était dans un château, et je me rappelle, enfant, d'avoir éprouvé le contraste entre ces formes typiques de l'époque et puis un côté plus patrimonial du château. Je me rappelle d'œuvres exposées dans un pigeonnier, mais c'était un souvenir assez flou. Ce sont des œuvres, je voyais des grands tableaux avec des espèces de perspectives qui jouaient beaucoup avec la perception. C'est sans doute ça qui m'intéressait à ce moment-là. Une appréhension physique de l'art qui n'était pas seulement quelque chose de visuel, mais qui troublait un petit peu les sens d'une manière générale. Et puis après ça, j'ai d'autres souvenirs. J'habitais à ce moment-là à côté de Lyon et je devais prendre un car pour regagner ma maison. Et il y avait une attente assez longue, et dans la gare routière, il y avait un petit espace dédié à l'art contemporain, qui s'appelait Les Lacs. Et j'y allais, en fait, parce qu'il faisait plus chaud, et parce que l'endroit était plus agréable que l'arrêt de bus. Et en fait, c'est ça qui m'a mené à l'art. Donc j'ai vu des expos de, je me rappelle, de chiens, de Cueco, cette époque-là, et d'installations vidéo de Marie-Jo Lafontaine. Et c'était en fait plus une immersion, ça ne m'intéressait pas spécialement. Mais petit à petit, ça m'a intéressé par une forme de porosité et le temps aidant.
Donc des châteaux forts, une nouvelle version des châteaux forts d'abord, hein, Xavier oui. Veillant. Et puis ensuite, plein de propositions différentes qui vous restent comme des énigmes.
Oui, c'est-à-dire que plus on, je ne crois pas qu'on puisse vraiment répondre très clairement à cette question, parce qu'il n'y a pas de... c'est pas forcément les œuvres qui mènent à l'art, c'est plutôt une perception générale de la réalité et une volonté d'essayer d'y voir peut-être un peu plus clair d'ordonner le réel qui est un petit peu chaotique et de rendre les choses plus lisibles au travers d'une pratique artistique.
C'était à première vue la chronique d'Aude Lavigne. Notez, chers auditrices et auditeurs, que les œuvres de Xavier Veillant sont à découvrir en août à la Galerie des Galeries à Paris, à Barcelone, dans une exposition personnelle intitulée Architectones, mais également à Klovedal en Suède, au Pilan Heritage Museum et enfin, et ce jusqu'en décembre, dans le cadre de l'exposition collective intitulée Le Baron de Triquety à l'abbaye de Cluny. Anne Besson, en ce qui vous concerne, comment s'est nouée cette vocation pour la fantaisie? On entendait Jean-Luc tout à l'heure nous parler d'Ivan Noé chez Jacques Le Goff, qui nous a quittés cette année, grand historien du Moyen-Âge. C'était aussi Ivan Noé, vous, c'est en visitant l'abbaye de Cluny, derrière un pilier de Notre-Dame, comme Claudel?
C'est un petit peu décevant peut-être, mais rien de tout cela. C'est moi les récits au long cours, les cycles et les séries qui m'intéressaient au départ.
C'est par la télévision que vous êtes allé à la littérature comparée?
Non, c'est plutôt en littérature. Asimov, Tolkien, entre autres. Robert Zelazny, par exemple. Donc les grandes histoires à suivre, hein, dont j'avais envie de comprendre le fonctionnement. Et puis petit à petit, se sont imposés à moi des exemples toujours plus nombreux. J'avais fini ma thèse quand ont commencé à sortir les volumes d'Harry Potter, puis les films adaptés par Peter Jackson du Seigneur des Anneaux. Et donc mon domaine d'expertise est devenu de plus en plus présent dans la culture contemporaine. Et notamment très illustré par les autres mondes qui se multipliaient en fantaisie. Et c'est ça qui a retenu mon attention.
Merci beaucoup, chère Anne Besson, d'être venue éclairer nos torches aujourd'hui dans la grande table d'été sur France Culture. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de La Fantaisie, ouvrage de référence chez Klingzik. On vous doit également, à propos d'Asimov, de Tolkien et de votre thèse, un ouvrage intitulé donc D'Asimov à Tolkien, cycles et séries dans la littérature populaire contemporaine chez CNRS Édition, et puis à venir dans très peu de temps, les univers transmédiatiques à nouveau chez CNRS Édition. Je rappelle aussi à l'occasion de cette émission que on explore le médiéval depuis somme toute assez longtemps en France. Il y a la fameuse bande dessinée de François Bourgeon, Les Compagnons du Crépuscule, qui fête ses 30 ans cette année, et puis il y a une réédition de cette série. Et puis on parlait de Jacques Le Goff le 21 août au Seuil. Le Seuil réédite Héros et Merveilles du Moyen-Âge de Jacques Le Goff, disparu le 1er avril dernier. Je tiens remercier également Jean-Luc Clausson, conseiller technique en escrime médiévale, et Esclarmonde Palivoda, jouteuse qui répondait aux questions de Marie Noyen. Et avant d'ouvrir le carnet de bal de notre deuxième grand invité, Marc Lambron, je vous propose d'ouvrir d'abord et tout bonnement le bal avec la session live de Mathieu Conquet, qui nous propose aujourd'hui d'écouter trois préludes de Chopin, interprétés par Danil Trifonov, musicien âgé de seulement 22 ans, fils d'un compositeur punk rock, lui-même compositeur. Voici donc trois prélude de Chopin, opus 28, prélude 11 en si majeur, le 16 en si bémol mineur et le prélude 23 en fa majeur. C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Daniil Trifonov qui sera en concert le 6 août à la Roque d'Anthéron et qui vient de signer un récital à Carnegie Hall édité par Deutsche Grammophon.
Jusqu'à 14h, la grande table d'été, Martin Kenéen.
Alors certes, écouter Chopin nous a quelque peu rassérénés après la fureur du Moyen-Âge, mais les miracles et les massacres de cette époque excitent encore un peu notre esprit à l'orée de cette deuxième partie de la Grande Table d'été dont Marc Lambron nous fait l'honneur d'être le grand invité. Bonjour Marc Lambron.
Bonjour.
Le Moyen-Âge, disais-je, et sa violence éruptive ne sont pas loin de vous non plus, puisque récemment élu académicien au fauteuil numéro 38, vous voilà, vous aussi, autorisé à porter l'épée. Et d'ailleurs, qu'en est-il à ce propos? Votre espadon est actuellement chez le forgeron?
Non, pas encore, parce que l'élection, elle remonte à un peu plus d'un mois. Mais enfin, la question de l'épée se pose assez tôt. Elle est assez singulière, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions dans le monde contemporain de se faire forger une épée, sauf si vous êtes un acteur de Game of Thrones, justement. Mais là, ce n'est pas une épée de studio, c'est une épée d'apparat. Alors, il y a deux options. La première, c'est que vous faites dessiner une épée originale. Et vous la faites réaliser. Alors, j'ai déjà un ami dévoué qui est Karl Lagerfeld qui se propose pour imaginer une épée. C'est une option. Le problème, j'ai regardé quelques épées contemporaines, c'est que ça donne souvent des résultats assez kitsch. Alors, l'autre option, c'est de récupérer une épée, on peut dire, patrimoniale et de la faire retravailler, de la personnaliser ou, pour parler français, de la customiser. Alors, je suis allé voir, non pas un armurier, mais un fourbisseur, qui s'appelle Michel Renoncia, qui est un homme de l'art, et qui m'a présenté quelques exemplaires d'épées qu'il avait dans son atelier. Et il y en a une qui, je dois dire, m'a assez séduite, parce que c'est une épée historique. C'est une épée qui a appartenu à un membre, on ne sait pas lequel, de l'Institut d'Égypte. Vous savez que lorsque Bonaparte est allé en Égypte, il était accompagné de nombreux savants, et qu'à côté des académies déjà existantes, il avait fondé une sorte d'académie qui s'appelait l'Institut d'Égypte, qui existe toujours, qui a été transférée au Caire, et qui malheureusement, lors des événements de la place Tahrir, a fait l'objet d'un incendie. Il y a des archives très précieuses qui ont disparu. Alors, on me présente cette épée de l'Institut d'Égypte, donc époque fin consulat, début empire, qui est une très belle épée dorée, avec un pommeau qui représente un aume, et sur la poignée, une image de la déesse Isis. Alors, moi, j'avais quelques idées sur ce qui devrait apparaître sur une épée, quelle qu'elle soit.
Vous avez vous-même adoré la déesse Isis dans vos années babacool ?
Eh bien, je voulais que sur cette épée apparaisse d'une manière ou d'une autre une femme, et éventuellement une femme qui renvoie aussi aux héroïnes de quelques-uns de mes romans. Et par exemple, j'ai écrit un roman qui s'appelle « L'œil du silence » sur une photographe, maîtresse de Manet, photographe
Lee
de guerre,
Miller.
Lee Miller, mais qui pendant une partie de sa vie a vécu au Caire. Elle était l'épouse d'un magnat égyptien, puis elle s'y est ennuyée. Mais le fait qu'il y ait une figure d'Isis sur cette épée renvoie aussi à l'Égypte et à Lee Miller. Donc je suis très tenté et j'y ferai incruster ou ajouter des motifs. Il y aura probablement un masque, parce que un loup, parce que j'ai écrit un roman qui s'appelle « La nuit des masques » et parce que le masque, c'est la fête, c'est Venise. Et puis, c'est le masque du masque, ce qui est derrière. Il n'y a peut-être rien, d'ailleurs. Sans doute une note de musique, je ne sais pas, ou un triolet ou une double croche, parce que la musique, au fond, je la place au-dessus du reste, de tout. et peut-être, concession à mon autre métier, puisque je suis conseiller d'État, une balance. Je tiens à ce que ça soit des symboles qui auraient pu apparaître déjà au XVIIIe siècle.
Ça ressemblera à un étrange bas-relief égyptien de hiéroglyphes. Il faudra être Champollion ou réécouter cette émission pour comprendre quelque chose.
J'ajoute une chose. Oui, je souhaiterais faire remplacer le home sur le pommeau par un lion parce que je suis natif de Lyon. Donc vous aurez un lion, une figure d'Isis, et de l'autre côté, sur l'autre poignet, vous aurez des petits motifs, un masque, un trille et une balance.
Vous le dites, Marc Lambron, voilà. Votre épée sera une épée d'apparat. Il y a toutes ces incrustations, cette customisation, comme vous dites avec ce terme cher à vos confrères désormais de l'Académie française, oui. Cette ornementation. Quand on parle de littérature, il y a cet adjectif précieux, ce à quoi me fait penser votre description de votre arme bientôt réalisée. L'adjectif précieux, quand on parle de littérature, il est souvent associé au ridicule. C'est un peu la faute à Molière. Mais je trouve personnellement quelque chose de précieux, au sens noble, au sens fier, vigoureux dans votre style et aussi dans votre vocabulaire. Marc Lambron, est-ce que vous cherchez l'éclat précieux de la langue française, peut-être en orfèvre, ou cela vous vient-il malgré vous, encore Molière ?
Non, je ne crois pas que je cherche la préciosité. D'ailleurs, ce qu'on appelle préciosité en littérature française, de manière souvent dépréciative, c'est en réalité une époque qui est peut-être mal connue ou mal perçue, qui est celle du baroque. Il y a une poésie baroque française que Gérard Genette, par exemple, a étudiée et qui renvoie aux torsions, aux volutes de l'architecture ou de la peinture baroque. Donc je ne le prendrai pas en mauvaise part. Après, je ne crois pas que ce soit être quelqu'un qui police beaucoup ses textes. Ça sort à jet continu. Mais sans doute parce que le logiciel a été pré-réglé auparavant. Donc, moi, j'aime bien l'écriture qui respire et qui peut sortir complexe ou pas. Pour moi, le plus grand écrivain de la littérature française, c'est Saint-Simon. C'est le duc de Saint-Simon, parce qu'il écrit comme il respire, parce qu'il écrit comme on se bat, parce que c'est un écrivain de duel qui zèbre le visage de ses ennemis. On retrouve l'épée. Et qui en plus écrivait sans espoir de rétribution narcissique, puisqu'il était entendu que son œuvre serait posthume. Voilà, donc ça c'est une bonne façon de se battre, d'être un peu baroque, précieux si vous voulez.
Alors vous évoquez votre goût de la bagarre, tel le petit duc donc de Saint-Simon, Marc Lambron. Justement, parlons encore un instant de votre épée. Vous la portez, vous avez rejoint les immortels de l'Académie française, donc vous ne craignez plus rien ni personne, en tout cas dans un duel. Il y a cet essai étonnant publié par Anne Bockel et Étienne Kern, « Histoire des haines d'écrivains », où il était question des estocades, monnaie courante entre les écrivains du XIXe siècle, quand Léon Blois traitait Zola d'incomestible pourceau, quand Flaubert disait de Musset « C'est un esprit eunuque, la couille lui manque, il n'a jamais pissé que de l'eau claire ». Aujourd'hui, vous avez le sentiment que les choses sont un peu calmes entre écrivains ? Vous avez hâte de pouvoir zébrer le visage de nouveaux adversaires ?
Écoutez, moi, les autres écrivains, je les pratique, c'est-à-dire je pratique leurs textes comme critique littéraire, qui est un, je ne sais pas s'il faut dire une fonction, un office ou un plaisir que j'exerce au point. De plus en plus, je dois dire que je suis enclin à faire de la critique de préférence, pour reprendre le titre d'un livre de Julien Gracq, parce que dans un océan de valeurs moyennes ou fausses, je crois que c'est bien de ponctuer ce qui vous semble être du côté de la littérature. Mais quand il y a de l'imposture, ou ce qui me semble être, je peux y aller, en effet, et je vois que ça laisse des traces. Mais à tout péché miséricorde, j'ai par exemple quelqu'un qui ne cesse, alors que je ne lui veux pas de mal, je pense simplement qu'il écrit avec un aspirateur, mais c'est Philippe Djian qui me poursuit de sa vindicte. Bon, en 15 ans, j'ai écrit 2 articles assassins sur lui, il n'a pas changé, moi non plus.
Alors maintenant que vous voici équipé d'une épée, d'une vraie épée. Est-ce qu'on peut imaginer vous voir comme hier Hugo provoquant en duel Sainte-Beuve, qu'il appelait Sainte-Bave, croiser le fer avec Djian ou qui sait, je ne sais pas, avec un de vos collègues, Jean-Christophe Ruffin ?
Bah, avec Djian, ça serait plutôt du western spaghetti. donc ça se ferait au...
Vous promenez avec un flingue à la ceinture, c'est ça ?
Ça se ferait au revolver dans voilà, à Cinecittà, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas escrimeur et Djian, à mon avis, encore moins. Moi, je crois que les écrivains, il faut presque les protéger écologiquement maintenant. Il y a une telle montée d'amnésie, d'inculture tout de même, que moi, je ne suis pas enclin à leur tirer dessus. J'ai plutôt envie de leur dire bravo et encore.
Rolling Stone sur France Culture dans la grande table d'été. En votre honneur, Marc Lambron, vous hochez de la tête, vous vous retenez de ne pas vous mettre à danser frénétiquement avec le pelvis élastique d'un Mick Jagger, comme vous l'écrivez. Vous avez reconnu ce morceau?
Il s'appelle Rip This Joint. Donc c'est un morceau qui est sur l'album Exile on Main Street. Il est enregistré en France parce que l'album Exile a été travaillé à Villefranche-sur-Mer, dans une villa qui était la villa louée par Keith Richards. Et il y a très bonnes photos d'ailleurs qui ont été faites par un photographe français qui s'appelle Dominique Tarlet. Et c'était très rock'n'roll, c'est-à-dire un tourbillon de drogue, de groupies. Il travaillait la nuit. Et ça, c'est une chanson. Là, on vient d'entendre la voix de Jagger qui est en avant, mais sur scène, elle a souvent été donnée à Keith Richards. C'est une des chansons que chante le guitariste rythmique.
Voilà. La tête à claque et la tête de boxeur des Stones, comme vous les décrivez. Ouais, la tête de mort.
La tête de mort et la tête à claque. La tête de mort, c'est Keith Richards, et la tête à claque, c'est Jagger. Ouais.
Alors cette période de rock, ces festivals de l'été, de tous ces excès, vous l'avez traversé amoureusement, Marc Lambron. Vous avez aimé les Rolling Stones, les Who, les Stones que vous avez rencontrés aussi quelques années plus tard avec un autre photographe, Jean-Marie Perrier, dans les studios mythiques d'Abbey Road. Vous voici académicien, je vous le rappelle, en habit vert avec la responsabilité qui va avec. Est-ce que vous continuerez à aller écouter des concerts avec des rockstars un peu déglingués?
Bah écoutez, je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire. Toute proportion gardée, Kessel avait fumé l'opium et Morand avait écouté beaucoup de jazz. Ils ont fini sous le dôme de l'architecte Levaux, 17e siècle, qu'on appelle la coupole.
Est-ce qu'on va écouter Rip This Joint sous la coupole, grâce à vous?
Vous savez, je crois que l'Académie française, une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est une photographie. C'est une photographie, 40 ans après, de ce qui s'est passé dans une génération. C'est très frappant. Vous prenez entre 1920 et 1925, par exemple, en France, il y avait des jeunes écrivains émergents qui s'appelaient Cocteau, Morand, Mauriac, Monterland, Mauroy, Lacretel, Kessel pour le journalisme, René Clair pour le cinéma. 40 ans plus tard, années 60, ils étaient tous là. Donc aujourd'hui, la photographie, qu'est-ce qu'on a? On a une photographie des années 70. Il y a le rock dans les années 70. Puis il y a une chose qu'on dit assez peu, qui est assez frappante dans la composition de l'Académie. C'est deux choses, au fond. Les années 70, dans le champ intellectuel, c'est la montée des professeurs. C'est-à-dire que les maîtres penseurs sont moins des écrivains, comme à l'époque de Barrès, de Gide ou de Malraux. C'est l'époque de Barthes, de Foucault, de Lacan, etc. Bon, beaucoup sont morts assez tôt, mais Lévi-Strauss, par exemple, qui était leur doyen, est arrivé à l'Académie française. Là, il vient d'avoir 5 élections en un an et demi. Sur les 5 élus, 5 nouveaux élus, 4 sont des agrégés. Dominique Bonnard, Xavier Darcos, Alain Finkielkraut et moi-même.
Agrégé de lettres, élève de l'école normale supérieure.
On vient de recevoir Michael Edwards, professeur au Collège de France. Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, s'est présenté l'année dernière, n'a pas été élu. Vous regardez, je prends une minute pour vous dire ça, parce que c'est assez intéressant, la composition. Il y a des universitaires qui étaient déjà émergents ou notoires dans les années 70. Hélène Karadankos comme soviétologue, Michel Serres, René Girard, Pierre Nora, Marc Fumaroli, sans compter ceux qu'on considère comme des écrivains, mais qui sont aussi des agrégés ou des normaliens. Jean Lormesson, Dominique Fernandez, Daniel Salnave, Florence Delay, Jean-Luc Marion, Monseigneur d'Agen, et j'en passe. Donc en réalité, sociologiquement, l'Académie française, elle dit quelque chose de ce qu'a été la prise de pouvoir intellectuel des professeurs dans les années 70, et ça pose la question non pas de l'âge du capitaine, mais la question de l'école, c'est-à-dire où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le professorat comme mode de perpétuation, de transmission et de maintien d'une culture dont l'Académie, à certains égards, apparaît comme le conservatoire?
Mais alors, on dit que l'école française se porte plutôt mal aujourd'hui, qu'elle est moribonde. Est-ce à dire, en suivant votre raisonnement, Marc Lambron, que dans 40 ans, on aura à l'Académie française, je ne sais pas, des rockers français, des musiciens de musique électro, des rappeurs, puisque dans tous ces domaines, la France se porte bien?
Écoutez, je ne sais pas.
Peut-être des grands couturiers, pour vous, qui, avec votre théorie du chiffon en particulier, rendez hommage à cette industrie du luxe qui marche.
On pourrait commencer. Il y aura peut-être des cinéastes, moi je ne sais pas, même avant ça, pourquoi est-ce que Olivia Sayas, pourquoi est-ce que Étienne Dao, après tout, pourquoi est-ce que quelques poètes de la caméra ou de la musique n'entreraient pas assez vite. Rien ne s'y oppose. Je veux dire, il y a une époque où justement on faisait entrer René Clair. Et Dabadi, qui est aussi un homme des années 70, qui est le grand dialoguiste et parolier du cinéma et de la chanson, est là. Donc la musique, elle est déjà là. La musique populaire, elle est déjà là.
Mais à propos de ces années 70, précisément, c'est notamment dans votre roman Une saison sur la Terre, Marc Lambron, que vous révélez que Cagneux, vous aviez goûté au LSD, vous aviez goûté aux musiques non seulement rock, mais aussi planantes, que vous avez été batteur dans un groupe de rock.
Oui.
Aujourd'hui, en 2014, quelle musique fait la bande-son de votre été? C'est encore et toujours cette musique des années 70?
Oui, d'une certaine manière, on ne se refait pas. C'est-à-dire, cette année, il m'est arrivé trois choses qui m'ont téléporté dans les années 70. D'abord, quand vous êtes élu à l'Académie française le 26 juin, moi, j'ai passé le bac en 74, il y a exactement 40 ans, à peu près à la même époque. Donc, la chaleur, la touffeur, la lumière, je me suis dit, j'ai eu le même type de plaisir, le même début d'été que celui d'un bachelier. Enfin là, j'espère que c'est mon dernier bac. Mais en 2014, par cette élection, alors, j'ai eu trois choses. J'ai eu ma photographie avec Paul McCartney. Ça, c'est mon côté fan, groupie. Toujours Jean-Marie Perrier, qui m'apprend qu'en février, une exposition des photos de Linda McCartney, la femme disparue, avait lieu à Montpellier et que McCartney viendrait l'inaugurer. Donc je me suis rendu à Montpellier et Jean-Marie Perrier m'a mis dans la boîte. Donc ça va, la question Beatles s'est réglée, j'ai ma photo avec McCartney. Ensuite, il y a deux mois, on m'a proposé une interview avec Marianne Faithfull, je n'avais jamais rencontré, donc j'ai eu une interview avec Marianne Faithfull. Et un peu après, le 13 juin, les Rolling Stones au Stade de France. Donc vous voyez que je suis, pour le premier semestre, relativement dopé avec des légendes des années 60 et 70. Maintenant, la musique que j'écoute, c'est beaucoup une musique de revisitation. En plus, avec YouTube, maintenant, c'est extraordinaire. Toute l'archive musicale, y compris pirate, ou des émissions de télévision jamais vues en France, qui passaient en Angleterre. Voilà. Donc, YouTube, c'est une banque de données musicales assez extraordinaire. Et donc, on peut revoir, on peut doubler ce qu'on savait par ce qu'on ne savait pas, et qui est souvent prodigieux.
Vous avez désormais votre photo avec Paul McCartney. Mais alors, vous n'êtes peut-être pas la seule rockstar à siéger sous la coupole Quai Conti à l'Académie française. Marc Lambron, avec quel autre rockstar vous aimeriez faire une photo parmi les académiciens?
Parmi les académiciens?
Oui, une photo de fan.
Ah bah, Jean Dormesson est assez électrique, comme vous l'avez remarqué. Donc là, il y a quelques rockings aïeux dans le. La question, c'est quoi? Qui est-ce qui aime le rock?
Non, avec qui vous feriez une photo de fan à l'Académie française, puisque vous rejoignez cette assemblée?
Ah bah écoutez, là, c'est une autre affaire. Ça, c'est une espèce de vertige temporel que j'ai eu quand je me suis déclaré. Parce que j'écrivais des lettres, selon l'usage. Vous savez, quand on se déclare, il faut écrire des lettres de courtoisie, en sollicitant une audience ou une visite, plutôt. Et justement, on parlait de 74. J'écrivais, je me disais, j'écris à Michel Serres, j'écris à Pierre Nora, j'écris à René Girard, qui étaient des auteurs que je lisais en terminale ou en hypocagne. J'écris à Veillergance, dont j'avais acheté en 72 le premier roman, Le Pitre. Donc c'est très étrange eh bien, il y a quand même 40 ans qui se sont écoulés, d'être en situation de solliciteur vis-à-vis de gens qui sont toujours là et qui vous accueillent dans leur compagnie. Donc ça dit des choses aussi sur les vertiges du temps, sur les raccourcissements et en même temps le rallongement de la vie, et sur des transmissions ou des cohabitations, en tout cas générationnelles, qui sont toujours possibles.
Alors vous parlez des vertiges du temps, Marc Lambron, cette saison nous sommes en été, c'est la grande table d'été qui a l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Quand je pense à vous, je pense à un film d'été qui a eu l'Oscar du film étranger cette année aux États-Unis, La Grande Bellezza, avec ce personnage formidable qui erre entre les nuits endiablées et mondaines de Rome et puis les ruines au petit matin, tel Apollinaire, se préparant à écrire Zone dans le petit jour. Il y a quelque chose pour vous de cela dans l'été ?
Bon, j'étais très fasciné par le film et par ce personnage qui s'appelle Jeb Gambardella dans le film.
Auteur, lui, d'un seul roman.
Alors justement, je me suis dit quand même, parfois on peut se distinguer des gens auxquels on aurait peur de ressembler. Il n'a écrit qu'un seul roman, puis après Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce film, qui ressemble, je crois, à quelque chose de ma génération, pour le coup, c'était le fait de pouvoir incorporer des longueurs d'onde très différentes, c'est-à-dire de se promener sur le forum, en effet, ou d'entrer, je ne sais pas, dans la bibliothèque Mazarine, que je vais fréquenter beaucoup maintenant, et en même temps, d'avoir assez d'oreilles ou de passion pour presque pleurer quand Jodie Winter disparaît. Et y mettre autant d'intensité. Et ça, je crois que c'était là dans les années 70, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi bien lire, je ne sais pas, une BD de Drouillet, Flaubert, écouter Led Zeppelin, et aller voir une exposition de Masaccio. Et pour moi, ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question d'intensité, au fond, de plaisir. Et je crois qu'on peut prendre des plaisirs très différents et magnifiques en écoutant un vieux bluesman et Dante ou en écoutant une cantate de Bach.
Alors il y a des plaisirs, il y a aussi des souffrances. L'été, Marc Lambron, l'été c'est aussi la saison où est mort il y a bientôt 20 ans votre frère, Philippe. Vous lui avez consacré votre dernier livre qui a été écrit en réalité au moment de sa mort en 1995 mais publié seulement l'an passé. Avoir écrit sur sa mort, est-ce que ça a modifié la trace qu'il laisse en vous, selon les mots que vous employez dans votre roman?
C'est-à-dire que quand je l'ai écrit, c'est un texte pas très long, que j'ai écrit, mettons, 6 mois après sa mort, dans la hantise d'oublier. Dans la hantise qu'il n'y ait pas d'inscription, qu'il n'y ait pas de photogramme, justement, de ce qu'il avait pu être. Et donc c'était pas un texte qui était destiné à être publié, il a été circonstanciellement, il y a des motifs à ça, maintenant. Mais c'était comme un mémorial instantané avec la peur de l'amnésie, justement. Et puis un tombeau, ce qu'on appelait au XVIe siècle un tombeau.
Il y a l'idée que vous avez voulu...
Un hommage à un disparu.
Figer cet instant, cette figure comme un gisant. Il y a pourtant quelque chose qui a changé dans sa présence à vos côtés depuis que vous avez écrit et depuis que vous avez publié, tu n'as pas tellement changé.
Ce qui change, c'est le croisement des mémoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le texte a été public, je vois de ses amis, de ceux qui l'ont connu, qui m'écrivent. Donc il y a des optiques, des souvenirs enfouis qui sont exhumés et qui me reviennent. Donc c'est comme une polyphonie, alors que le texte était assez monodique. Ça n'était que le mien.
Retour en 2014 au rock d'aujourd'hui avec les Franz Ferdinand choisis par Michel-Ange Vinti, Evil Eye sur leur nouvel album. En 2014, pour le 15 octobre précisément, Marc Lambron vous préparait un ouvrage d'histoire sur le Quai d'Orsay, trésor du Quai d'Orsay. Or, vos maîtres, Foucault, Derrida, vous ont jadis enseigné qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a que des interprétations. Alors, à défaut de vérité historique, quelle interprétation souhaitez-vous donner de cette histoire du Quai d'Orsay et de ses archives ?
C'est pas un livre très long, c'est plutôt une longue préface. Hein. C'est très très fascinant. En deux mots, le Quai d'Orsay, depuis les années 1860 à peu près, c'est-à-dire depuis l'invention des daguerréotypes, a archivé des photos qui étaient prises parfois par des photographes missionnés, mais très souvent, et au fur et à mesure que l'instantané se développait, par des diplomates. Donc il y a une archive tout à fait extraordinaire, dans laquelle une sélection a été faite. C'est la chronique des ambassades, mais c'est beaucoup les pays de résidence. Et en réalité, c'est un musée de l'homme. C'est un livre quasiment ethnologique. On voit aussi bien des mandarins que des trafiquants d'or dans l'Amazonie, que des cow-boys américains. Donc il y a une grande diversité. Et ce qui m'intéresse, c'est à la fois cette curiosité française, parce qu'ils sont héritiers des encyclopédistes, au fond, ils sont héritiers de Dumont-d'Urville, des grandes explorations et des grands, du catalogage du monde qui s'opère à partir du XVIIIe siècle. Et puis en même temps, on voit bien, quand on regarde ces visages indochinois, ces visages de pays musulmans, qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, qui est une révolte. C'est-à-dire qu'il y a la guerre du Rif, il y a Malraux qui va écrire La Voix royale, puis La condition humaine. On voit très bien l'articulation entre ces pays qui sont essentiellement colonisés, ou terra incognita, et ce qui va suivre, c'est-à-dire l'histoire du XXe siècle. Et
on voit une photo de vous en 1988, à Madrid, au moment où vous allez écrire votre premier roman, L'impromptu Madrid, jeune attaché d'ambassade.
J'aurais dû vous dire une chose qui correspond à ce que je viens de vous expliquer, c'est que la période couverte, c'est 1860-1920. Donc en 1920, je n'étais pas encore à Madrid. En revanche, il y a une photo de Morant, qu'on n'a jamais vue, qui sort des archives, à Londres, en 1916, en uniforme de diplomate, avec son épée, qui est celle qu'en 1968, il a reprise quand il a été élu à l'Académie française. On finit avec une épée.
Et donc, pour une photo de vous en diplomate, il faut donc lire votre premier roman, L'impromptu de Madrid. Merci beaucoup, Marc Lambron. C'est Trésor du Quai d'Orsay, écrit avec Jean-Philippe Dumas, sort chez Flammarion le 15 octobre. Et puis, j'évoquais Tu n'as pas tellement changé, le dernier ouvrage publié chez Grasset. Il y a un autre trésor qui n'est pas au Quai d'Orsay, mais à présent autour de la grande table d'été. C'est la chronique volontiers clinquante de Marine Loyen, dédiée à la culture populaire à la française, qui vous donne rendez-vous tout l'été. Bonjour Marine.
Bonjour Martin.
La Grande Table, c'est aussi l'été, avec Martin Kénéen.
Aujourd'hui Marine, vous nous invitez à faire durer le plaisir de la fête dans les after-parties, encore un terme contre lequel devra ferrailler Marc Lambron avec ses confrères de l'Académie.
Oui, la gourmandise du jour sent le rhum coca et la sueur juvénile. Allez, enfile en boîte au Pacha ou au Macumba. Pas de basket, ne pas se laisser intimider par le physionomiste. À l'intérieur, les basses font vibrer la cage thoracique. Odeur de bière et chaleur moite, on danse dans la foule compacte et éméchée. Les stroboscopes font palpiter le cœur. La boule à facettes scintille au-dessus de la piste. Et ça y est, c'est la fête. Le philosophe Yves Michaud s'est penché sur cet univers lumineux et bruyant dans son ouvrage Ibiza, mon amour. Il y décrit l'industrialisation du plaisir. Mais oui, aujourd'hui, on va faire la fête par charter. Mais les boîtes de nuit, celles que nous connaissons, les discothèques de campagne, celles qui se sont éloignées des centres-villes vers les zones industrielles ou commerciales, celles-là sont peut-être en voie de disparition. Il y en avait 4000 en France dans les années 80. Elles ne sont plus que 2200 aujourd'hui, car l'heure de gloire des discothèques, c'était bien les années 80. Et aujourd'hui encore, d'après la SACEM, les tubes de Gilbert Montagnier, Claude François et Émilie Image font toujours partie des 20 titres les plus diffusés en boîte. J'ai donc rencontré François Prost, graphiste et photographe. Il fait le tour de France des boîtes de nuit pour prendre en photo leurs façades, pour les immortaliser en plein jour. Une série nostalgique, pleine de tendresse sur ces temples de la fête, peut-être en voie de disparition.
Alors en fait, cette photo, donc, c'est donc une boîte de nuit qui se trouvait en Bourgogne, sur laquelle je suis tombé en faisant une balade en vélo de quelques jours avec un copain. Et donc en fait, en voyant cet endroit, j'ai trouvé cet endroit assez marrant, parce que je pense que c'est une ancienne ferme qui a dû être reconvertie en boîte de nuit. Et je trouvais que le contraste entre les lumières, enfin tous les, comment dire, les objets de décoration qu'ils avaient rajoutés sur cette ferme, je trouvais ça assez marrant et un peu en contraste avec le lieu originel. Et du coup, moi qui ai aujourd'hui 30 ans, peut-être que le fait d'avoir entre guillemets un peu grandi et de mettre en parallèle l'image que j'ai pu avoir des boîtes de nuit quand j'étais adolescent vers 15-16 ans, ce contraste m'a charmé, en fait, m'a plu, quoi, parce que c'est vrai qu'à 15-16 ans, on se fait toute une image, enfin, on a toute une imagerie en tête des boîtes de nuit, c'est un côté un peu sulfureux, c'est un côté un peu... il se passe des trucs, il y a des histoires avec des filles, il y a des histoires avec de l'alcool, c'est l'objet de beaucoup de fantasmes, les boîtes de nuit, quand on est adolescent. Je suis aussi assez charmé par, on va dire, tout l'univers esthétique. Effectivement, des néons, des palmiers en plastique, avec des tapis rouges. C'est tout cet univers aussi qui me fait pas mal marrer en tant que graphiste, quoi.
Il y en a une qui vous plaît en particulier ?
Alors, il y a une boîte de nuit... Là, on a Acropole, non. Une boîte de nuit que je... Enfin, en tout cas, une photo qui me plaît particulièrement, de la boîte de nuit qui s'appelle le Fiesta. Enfin, la Fiesta, pardon. Et elle me plaît particulièrement parce que, justement, tout l'univers esthétique qui est associé est assez fourni donc une enseigne déjà avec un logo et un nom qui est assez sympa, qui s'appelle La Fiesta, avec des petits palmiers dessinés. Donc La Fiesta, club privé. Voilà, on essaye de ramener ça à un certain haut de gamme, bon, qui n'est pas forcément très haut de gamme, et du coup, effectivement, ça peut être un peu décalé. Et devant ça, donc, il y a des palmiers qui sont des palmiers en plastique, avec des feuillages orange et des troncs jaunes, et eux-mêmes plantés dans d'autres caissons en plastique bleu. Ça confère un côté, on va dire, très pop et très plastique. Derrière ça, il y a des espèces de petits barreaux, comme une balconade, donc dans un style un peu gréco-romain. Et c'est rouge, c'est même rose, je dirais. Donc c'est même encore plus pop que rouge. Tous ces éléments que je viens de décrire donnent à cette image un côté assez surréaliste. On dirait presque que ça a été mis en scène, en fait.
Alors on s'imagine, là, de nuit, peut-être il y a des barrières, là. Donc on s'imagine qu'il y a la queue, qu'il y a un videur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ?
Un fond de musique assez sourd, avec des basses assez fortes. Une file de personnes qui attendent plus ou moins éméchées, avec certains qui se font recaler, d'autres qui rentrent, des scooters qui passent. Des voitures qui passent avec aussi des fonds de musique un peu sourdes avec des basses assez importantes. Des gens qui crient, peut-être 2-3 bouteilles qui partent. Pour le coup, sur cette image, on imagine la file de boîtes de nuit classique. Je pense que beaucoup de gens ont vécu pendant leur adolescence.
Et la série s'appelle After Party, disponible sur le site internet de François Prost.
Merci beaucoup Marine, rendez-vous demain pour une nouvelle chronique et pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était cuite à point par une bagaude réunissant Corinne Amar, Catherine Donnet, Lola Kahn, Marine Loyen, Claudia Prolongeau et Martin Kénéen. Une émission réalisée par Michel-Ange Vinti avec à la technique Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, dans la grande table d'été, il sera question d'extrémistes de tout poil, de circassiens qui tentent des choses improbables et dangereuses, mais aussi de jeunes djihadistes représentés par des romanciers qui les mettent en scène dans des polars ou des enquêtes journalistiques.